frères et sœurs, bienvenue dans ce temps de culte. Que vous soyez présents ici, dans ce temple du foyer de l'âme, ou présents par le moyen des réseaux sociaux, écoutez la bonne nouvelle pour vous, pour tous. C'est que la grâce pour vous susciter et vous ressusciter, la paix pour vous affermir, la sagesse pour vous orienter, la parole pour vous animer, vous sont données de la part de Dieu en Jésus le Christ, notre Sauveur et notre frère. Je vous invite à prier. Éternel notre Dieu, nous voici en ce jour rassemblés en ton Église. Donne-nous ton esprit comme tu nous l'as promis. Qu'ils se saisissent de chacun de nous et nous saurons découvrir dans le monde les signes de ta présence. Qu'ils bousculent notre façon de vivre et de penser et avec lui, nous ferons toutes choses nouvelles. Amen. Et nous chantons le premier des spontanés. Je vous invite à vous lever. Nous restons debout pour le temps de la louange. Célébrons le souffle, l'énergie vivifiante qui inspire au cœur de toute personne le goût du vrai, la passion de la justice, l'attrait du silence. Il a suscité au cours des temps et suscite toujours des prophètes pour contrer la loi du plus fort, pour annoncer l'amour fondateur, pour appeler à un retournement personnel et social. Il incite de génération en génération des êtres et des groupes à se réapproprier l'héritage reçu pour ouvrir à leurs contemporains des chemins d'avenir. Il permet à chaque humain, au cours de son histoire, de franchir des étapes inconnues, de s'aventurer sur des terres incertaines, de traverser des nuits, de surmonter des épreuves. Que notre meilleur hommage au souffle qui nous inspire soit de lui être disponible en toute notre existence. Amen. Et nous poursuivons la louange par le chant du psaume 116, « J'aime mon Dieu car il entend ma voix » et nous chanterons les strophes 1, 4, 5, 6 et 7.
Thank you.
place. Et nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies à travers ces paroles librement inspirées de quelques versets du psaume 9. Que les cœurs à l'écoute du plus intime s'éveillent sans cesse à l'exigence de la vérité et de la justice. Qu'ils regardent la réalité en face. Qu'ils se laissent habiter par une saine révolte, qu'ils se mobilisent partout pour combattre le mensonge et l'injustice et faire advenir un monde de droiture et de justice. Prière, nous nous recueillons chacun et ensemble, tels que nous sommes, et nous nous présentons humblement devant Dieu. Éternel, nous confessons devant toi, nous reconnaissons devant nos frères et nos sœurs, chacun et tous ensemble, que tu nous aimes. Tu nous aimes au-delà de ce que nous pouvons imaginer, malgré toutes les zones d'ombre de nos existences, où nous sommes solidaires et complices du mal qui court le monde, de la dureté, de la violence, de l'indifférence. Tu nous aimes au-delà de ce que nous pouvons imaginer, à travers nos peines, les douleurs des blessures et des manques, ce qui nous oppresse et nous défigure. Et là où nous nous sentons abandonnés, et là où nous nous retrouvons isolés, désolé. Nous ne faisons pas toujours le bien que nous voulons. Nous faisons parfois le mal que nous ne voulons pas. Nous sommes fragiles, tentés, dispersés. Cependant, notre vie repose sur le don de ta grâce toujours offerte, de commencement en commencement. Que ce cependant résonne chaque jour dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos nuits, dans nos errances. Amen. Et je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon et de la grâce dans ces paroles de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome. C'est que ni la mort, ni la vie, ni ange, ni principe, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus le Christ, notre Sauveur. Amis, frères et sœurs, tant de douce puissance nous étonne, nous bouleverse, nous ressuscite et transforme notre existence. Amen. Et nous chantons de joie vers le Seigneur, c'est au cantique numéro 253. Nous prions avant de lire dans les Écritures. Sans ta parole, ô notre Dieu, nous serions oiseaux sans ailes, puits sans eau, nuit sans lune, désert sans oasis. Au travers de la lecture des Écritures, donne-nous ta parole. Ô notre Dieu, par ton esprit, afin que nous la recevions comme la vie de notre vie. Amen. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Je ne crois pas qu'il y ait de muguet dans les Écritures, mais voici quand même pour le 1er mai. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17, les versets 5 à 10. Les apôtres dirent au Seigneur, « Donne-nous plus de foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier « Déracine-toi et plante-toi dans la mer » et il vous obéirait. Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître ses troupeaux, lui dira, quand il rentre des champs, « Viens tout de suite te mettre à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi aussi, tu pourras manger et boire. » Saura-t-il gré à ce serviteur d'avoir fait ce qui lui était ordonné ? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Alors quand même, ce sont des paroles un peu irritantes, voire même décourageantes. Personne n'a envie d'être un serviteur inutile. Personne, après avoir fait tout ce qui était à faire, et peut-être même plus, ne dirait « Je suis un serviteur inutile ». Ce texte est décidément bien étrange, car Jésus de Nazareth prononce plutôt des paroles d'encouragement, et pas des paroles de découragement. Y aurait-il là une leçon d'humilité ? Pour se répéter à la fin de chaque journée de travail que nous sommes des serviteurs inutiles, ça nous empêcherait peut-être de nous réjouir, d'être trop satisfaits de nous et de ce que nous avons accompli. Mais il n'est pas certain que cela fasse naître l'humilité dans nos esprits à force de répétition de formules incantatoires. Il en sortirait plus certainement une culpabilité assez écrasante, ou cette fausse humilité qui masque un orgueil démesuré. Ou alors est-ce une manière de se convaincre que de toute manière, si je ne fais pas ce que je dois faire, un autre le fera, et donc que je ne suis pas utile puisque je suis à ce point remplaçable. Alors ce n'est pas mauvais de se dire que nous ne sommes pas irremplaçables, c'est même plutôt sain. Santé. Mais il est facile après de se dire que oui, nous sommes inutiles et donc jetables. Et nous connaissons trop les ravages de cette dérive de l'inutilité pour l'associer à la bonne nouvelle. Faut-il alors entendre que le sens du devoir, faire tout ce qu'il y a à faire par devoir, doit être tellement exacerbé chez les chrétiens qu'il étoufferait toute autre considération par rapport au travail effectué. Sommes-nous appelés à être des hommes et des femmes de devoir ? Nous connaissons bien cela dans le protestantisme. Une question de morale, finalement. Mais Jésus de Nazareth ne parle pas de morale. Il parle d'évangile, et ce n'est pas la même chose. Et puis, soumis à un tel sens du devoir, comment faire preuve d'esprit critique ? Comment prendre un peu de recul par rapport à ce que l'on doit faire ? Comment contester ? Comment mettre en question ce qui est et ce qui se passe ? Alors, que deviendrait la liberté, l'imagination et la créativité ? Et surtout, nous savons bien que dire à quelqu'un « Tu es inutile, tu ne sers à rien », c'est d'une terrible violence. C'est une atteinte à sa dignité et à sa confiance en soi. Nous savons bien qu'entendre une personne dire « Je ne sers à rien, je suis inutile » signifie que cette personne doute de sa propre dignité, qu'elle doute du sens de son existence et que son envie de vivre en est affectée. Nous sommes tellement conditionnés par les injonctions à l'utilité qui est quand même une des logiques majeures dans le monde et dans la société. Elle peut même être appliquée à la foi, surtout si l'on considère la foi comme un outil qui doit servir à quelque chose, plus que comme une relation dynamique et souvent surprenante. Jésus de Nazareth s'adresse ainsi à ses apôtres. « Quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, des serviteurs qui ne servent à rien. » C'est assez inconfortable d'être ainsi écartelé entre un tout, ce qu'il y a à faire, et un rien, de ne servir à rien. Mais il faut se souvenir que ce sont les apôtres qui ont commencé à faire des mesures. « Donne-nous plus de foi, » ont-ils demandé. « Augmente-nous la foi. » Alors cela peut partir d'un bon sentiment, la conscience d'un manque de foi et la bonne volonté de vouloir croire plus et d'être ainsi un meilleur apôtre, un apôtre plus efficace. Ce qui est tout, mais vraiment tout près de la volonté de vouloir faire des choses extraordinaires, tout près de la volonté de devenir un genre de héros de la foi, la volonté de devenir enfin vraiment digne du Christ, vraiment digne d'être un apôtre, un Christ admirable, apôtre admirable. Dieu ne mérite-t-il pas le meilleur, le plus, le mieux? Il s'agit d'être à la hauteur. Et voici la porte ouverte, grande ouverte, au culte de la performance et de la compétition, à l'orgueil et à l'aveuglement que l'une et l'autre génèrent, la porte ouverte à la tentation de la puissance personnelle en vue d'obtenir la reconnaissance de Dieu et des autres, qu'ils soient croyants ou non. Alors la première partie de la réponse de Jésus est un petit chef-d'œuvre d'humour. « Si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier « Déracine-toi et plante-toi dans la mer » et il le ferait. » D'un seul souffle, Jésus rappelle aux apôtres qu'ils ont très peu de foi, une minuscule foi même, plus petite qu'une graine de moutarde, et que s'ils en avaient un peu plus, ils pourraient effectivement faire des choses extraordinaires et inutiles, comme aller planter un mûrier dans la mer. Cependant, Jésus de Nazareth n'a pas appelé ni envoyé les apôtres sur le critère de la taille de leur foi. Même si ces apôtres semblent assez souvent préoccupés par cette question. Quel est le plus grand, s'asseoir à la droite ou à la gauche, toutes ces questions-là qu'ils se posent au fil de l'Évangile. Jésus de Nazareth a même mis en valeur la foi de personnes auxquelles nul n'aurait fait le moindre crédit de foi, justement. Un centurion dont le serviteur est malade, une femme pécheresse qui oint ses pieds d'huile et les essuie de ses cheveux. Le souci de la quantité de foi marque un souci de soi dont Jésus de Nazareth ne cesse de souligner qu'il est dangereux parce qu'on s'y perd soi-même par manque d'ouverture à l'autre et à Dieu. Puis, à ces apôtres qui voudraient plus de foi pour faire de plus grandes choses, Jésus raconte cette parabole du maître et du serviteur, ou de l'esclave. L'arrière-fond de cette société est que l'esclavage y était très répandu. Jésus raconte cette parabole, donc. Entre le maître et le serviteur, deux situations sont proposées. Et dans la parabole, les apôtres sont invités à se mettre à la place du maître. La première situation établit une relation, on pourrait dire, de réciprocité entre le maître et le serviteur. Après une journée de travail, l'un et l'autre s'assoient à table pour prendre leur repas. et le maître manifeste ainsi de la reconnaissance pour le travail effectué par le serviteur. Or, ce scénario est tout de suite invalidé par Jésus au profit du second scénario, dans lequel le maître exige d'être servi à table par le serviteur qui ensuite seulement pourra à son tour manger et boire. Alors, la logique de ce second scénario, c'est en effet celle qui semble normale du point de vue des relations courantes entre maître et serviteur. Le serviteur doit faire tout son travail jusqu'au bout des tâches à effectuer avant de se nourrir et de se reposer. Et le maître n'a pas à lui témoigner de reconnaissance particulière pour cela. Et c'est ce que nous voyons à quelque chose près. Dans la logique du monde, la reconnaissance du travail accompli passe par un salaire ou une rémunération qui en est la forme matérielle. Et nous savons que ce salaire ou cette rémunération, l'argent reçu, participe à son tour à la reconnaissance sociale de celui qui l'a gagné. Cependant, la conclusion de la parabole renverse la perspective. Les apôtres ne sont plus à la place du maître, mais à celle des serviteurs inutiles malgré tout le travail accompli. Ce que dit Jésus, c'est qu'il n'y a aucune reconnaissance à attendre de la part du maître, c'est-à-dire, dans cette parabole, de Dieu pour le travail accompli. Cela va complètement à l'encontre de la logique dans laquelle nous baignons. Mais heureusement qu'il en est ainsi. Car si nous devions être récompensés par Dieu pour ce que nous aurions accompli à son service, nous passerions tout notre temps et toute notre vie dans l'angoisse de ne pas en faire assez et de ne pas mériter une récompense suffisante. Non, Dieu ne récompense pas les efforts, ni le temps passé, ni les compétences, ni les qualités. Et cela même est la bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui dans le monde, et même dans le monde du travail. Il n'y a là aucune dévalorisation ni du travail, ni des travailleurs. Au contraire. Dans la parabole, du travail a été ordonné au serviteur par le maître. Et quand le maître est Dieu, cela veut dire, cela signifie qu'une vocation a été donnée aux disciples. Une vocation leur a été confiée. C'est-à-dire que la reconnaissance des serviteurs, des disciples, est donnée en plénitude avant toute autre considération, avant que les disciples ne se mettent au travail et à l'œuvre. Nous ne sommes pas des serviteurs obligés d'accomplir un travail pour obtenir un salaire et une reconnaissance. Il n'y a pas de lien entre le travail effectué et le salaire et la reconnaissance. Nous sommes des serviteurs inutiles parce que nous ne dépendons pas de l'ordre de l'utilité, mais de l'ordre de la grâce. Ce qui ne nous empêche nullement d'accomplir des choses utiles pour nous, pour nos contemporains, pour la société, voire même pour l'Église. Ce n'est pas le travail réalisé qui procure la reconnaissance de la part de Dieu. La reconnaissance vient de la grâce qui précède la vocation, qui précède la mission confiée. La logique de l'Évangile, c'est que le Maître, Dieu, confie une tâche, un travail aux apôtres qu'il a déjà reconnus, qu'il appelle et qu'il envoie. Et c'est parce que nous sommes reconnus comme des personnes capables, dignes et responsables que nous sommes envoyés mettre en œuvre notre vocation en tout temps et en tout lieu. Cette conscience-là est celle que Jésus le Christ éveille en ses disciples. Et cette conscience-là transforme l'existence. Dieu n'est pas un maître qui exige d'être obéi sans se soucier de ses serviteurs. Une telle compréhension de Dieu conduit inévitablement à un comportement et une exigence au détriment d'autrui. Cela conduit inévitablement à faire payer aux autres ce qu'on veut être et ce que l'on veut de plus, toujours plus. Une telle compréhension de Dieu conduit à une existence sans joie dans un monde sans joie. Mais le Dieu qui envoie ce qu'il a reconnu est un Dieu qui libère des injonctions terriblement aliénantes à l'utilité et à la performance. D'un Dieu qui libère de la loi des mesures, qui libère du souci de soi. Dieu a déjà dit oui sur chacun de nous, et c'est pour cela que nous pouvons vivre et travailler sans être esclaves d'une quête sans fin de dignité et de reconnaissance. Dieu est celui qui nous espère et nous donne de devenir des humains libres, responsables et vivants de grâce. Et la vocation qui est la nôtre, la mission qui nous est confiée, notre travail de disciples, ce n'est pas tant de faire que d'annoncer l'Évangile, quoi que nous disions ou quoi que nous fassions. Ce que nous disons, ce que nous faisons, que ce soit une manière d'annoncer l'Évangile, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, le don sans retour et sans échange, la grâce préalable, la reconnaissance déjà offerte. Ah, c'est certainement une annonce qui conteste les logiques du travail, surtout celle qui lie d'une manière ou d'une autre la reconnaissance de la personne au travail accompli, en s'alliant à la part extrêmement importante que prend la vie professionnelle dans l'existence d'une personne. Mais cette conscience éveillée par le Christ entraîne une autre manière d'accomplir notre travail et tout ce que nous faisons, les activités et occupations quotidiennes, professionnellement et aussi bénévolement, en association, en paroisse ou dans d'autres cadres. Ce que nous sommes, chacun en tant que personne, n'en est pas dépendant. Le sens et la valeur de notre vie ne tient pas au travail que nous effectuons, ni d'ailleurs à l'absence de travail. Et cette conscience-là est source d'une grande liberté intérieure et aussi de confiance en soi. Cette conscience-là est donc une source d'engagement, d'imagination, de créativité et de relations. Et voyez-vous, puisque cette année, le dimanche, c'est le 1er mai, fête du travail et des travailleurs, eh bien, cela peut nous aider à dégager un peu plus en nous la place à cette conscience. Cela peut aider à la réveiller. Le dimanche, le jour du repos, correspond au Shabbat biblique. Un jour pour ne pas travailler, un jour pour ne pas accumuler, empiler les activités, un jour pour se souvenir de manière très incarnée, c'est-à-dire même avec notre corps, que nous ne valons pas ce que nous faisons, mais que notre valeur tient dans ce que l'Éternel dit sur nous. Bien sûr, il y en a beaucoup qui travaillent le dimanche, mais le sens du jour du repos, du Shabbat, qui peut avoir une autre forme que celle du dimanche, c'est de ne pas être esclave de son travail et de son salaire. C'est de louer Dieu et c'est de se réjouir d'être ainsi aimé. Alors, bon dimanche 1er mai. Je vous invite à vous lever pour entendre et vous associer, si vous le souhaitez, à cette confession de foi qui est celle de l'Église des Remonstrants des Pays-Bas. Nous affirmons de manière consciente que nous ne cherchons pas notre paix intérieure dans la certitude d'une confession de foi, mais dans la joie que nous recevons. Que nous ne cherchons pas le but de notre vie dans une attitude d'indifférence et d'avidité, mais dans la relation attentive avec tout ce qui vit. Que notre vie n'est pas accomplie par notre réussite humaine et nos possessions, mais par ce qui est infiniment plus grand que nous. Conduits par cette prise de conscience, nous croyons en l'Esprit de Dieu qui transcende tout ce qui divise les peuples, les ouvre à ce qui est saint et bon. Il agit dans le chant et dans le silence, dans la prière et dans le travail, afin qu'ils adorent Dieu et vivent de lui. Nous croyons en Jésus, homme animé par l'Esprit divin, visage de Dieu. Son regard nous déstabilise. Il a aimé l'humanité, il a été crucifié, mais il est vivant par-delà sa mort et notre mort. Il est notre exemple ultime de sagesse et de courage. Par lui, l'amour éternel de Dieu est proche de nous. Nous croyons en Dieu, l'Éternel. Il est amour insondable, fondement de l'être. Il nous montre le chemin de la liberté et de la justice et nous ouvre à un avenir de paix. Nous croyons que, bien que faibles et faillibles, nous sommes appelés à être l'Église, connectée au Christ et à tous les croyants, signe d'espérance. Nous croyons en l'avenir de Dieu et du monde, en une patience infinie qui nous donne le temps de vivre, de mourir et de revivre, en un royaume qui est et qui vient, Dieu éternel, tout en tous. À Dieu soit gloire et honneur pour le temps et pour l'éternité. Amen. Alors voici le moment des annonces. Aujourd'hui, bien sûr, la collecte profite de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Un appel aussi, puisque nous parlons d'entraide, pour le repas du CASP de dimanche prochain, le 8 mai, nous aurions encore besoin de 2 ou 3 personnes pour être à table avec les invités que le CASP a contactés et qui viendront dimanche prochain pour ce repas. Une annonce aussi concernant le bulletin L'amitié du mois de mai. Pour ceux qui l'ont reçu par mail, par Internet, il se peut, d'une part, que vous en ayez reçu 2, enfin que vous ayez eu 2 messages, et aussi, ou alors que le message se trouve dans vos spams, ce qui est arrivé à plusieurs personnes. Donc vérifiez bien Que le bulletin, l'amitié ne se trouve pas dans les indésirables, ce serait quand même très, très malheureux. Dans les activités de la semaine, alors cet après-midi, 17h30, c'est la cantate. La cantate du mois, du 1er mai, donc la cantate BWV 167, coordinée par Christophe Coin. Et donc à 17h30 dans le temple. Ensuite, dans la semaine, je vous signale donc la pause spirituelle jeudi 5 de 12h30 à 13h30 dans le temple, un temps donc de silence, de prière, de méditation et de partage autour d'un texte biblique et de musique. Et puis, samedi 7, ce sera donc la préparation l'après-midi du repas du Caspe pour les personnes qui se sont inscrites. Ah oui, j'ai oublié, nous aurions encore besoin d'un ou deux rice cookers, des cuiseurs de riz, si quelqu'un... Des cuiseurs de riz, Geneviève, pour nous en prêter. Oui, rice cooker, pardon, en français, c'est cuiseur de riz. Donc, si quelqu'un peut nous en prêter, ce sera très appréciable. Et puis donc, le dimanche 8, le culte à 10h30, et puis le repas du Caspe à partir de midi et dans l'après-midi. Je voudrais aussi vous signaler que dimanche prochain, le 8, il devrait y avoir au culte, normalement, une équipe de la télévision protestante italienne qui vient faire un reportage sur l'Église protestante unie de France, et c'est lié aussi avec la présence au foyer de l'âme du pasteur Marco Fornerone. Donc il y aura devrait y avoir des images tournées pendant le culte, donc si vous ne souhaitez pas paraître sur ces images, eh bien il faudra veiller à vous mettre derrière la caméra. Donc voilà, on le redira au début du culte, mais je vous en avertis déjà aujourd'hui. J'ai oublié de descendre les appels de l'ACAT du mois, donc ce sera pour le dimanche prochain. Je voudrais aussi vous porter à votre affection, à votre amitié et à votre prière notre amie Simone Nedelec, qui a été hospitalisée tout récemment à Jeanne Garnier, qui est une maison de soins palliatifs. Cela fait un moment que nous n'avions pas vu Simone, mais elle a participé par Zoom à beaucoup d'activités depuis le premier confinement. Et puis elle était une fidèle du culte et de bien des groupes et activités de la paroisse. Donc pensons à elle pour ce temps. Sa fille et sa belle-fille se trouvent parmi nous aujourd'hui. Et vous pouvez aussi leur confier des messages pour Simone. Qu'il y a d'autres annonces. Alors, c'est le temps de l'offrande, et que votre offrande soit un signe de confiance et d'espérance. Et pendant l'offrande, nous chanterons, décidément, pendant l'offrande, nous chanterons le cantique 212, « Mon Rédempteur est vivant », un cantique de Pâques. Au 212, je vous invite à vous lever.
Thank you.
rassemblons dans la prière d'intercession. Notre Dieu, nous nous tournons vers toi. L'amour et la confiance qu'il y a en nous, qu'ils irriguent par ta grâce nos choix, nos actes, nos paroles. Lorsque notre désir de renouveau s'affaiblit, ravive-le par ta vérité et la créativité en notre cœur, vivifie-la par ta sagesse. Et qu'ainsi, dans nos activités professionnelles ou bénévoles, nous soyons des témoins de l'Évangile. Partout où surgit un espoir de réconciliation, que ta puissance nous unisse. Suscite en nous un esprit de paix, la passion de la justice et le courage de nous engager sur la voie prophétique qui proteste pour l'humain au nom de ton amour inconditionnel pour tous. Ô notre Dieu, insuffle en nous la vie de ton esprit. Nous aspirons à la justice, à la paix, à la fin des oppressions, et nous déposons ce désir dans la prière afin que tu le ressuscites toujours, afin que nous nous mettions au travail, afin que nous n'oublions pas les peuples et les groupes humains en souffrance. Donne-nous assez de courage et d'espérance pour élever cette flamme d'espérance là où nous allons chaque jour, là où nous travaillons, là où nous rencontrons des frères et des sœurs. Et en communion avec tous ceux qui ont écouté et suivi le Christ, avec notre sœur Simone, que nous te confions dans son épreuve, nous disons ensemble la prière que le Christ nous a enseignée et qu'il prie avec nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation, puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Ainsi que Jésus le Christ l'a montré, ainsi que les évangiles en témoignent, que notre présence dans ce monde soit en écho à sa présence, libre dans son amour et aimant dans la liberté, spontanée et solide, émue et tenace, confiante et ouverte au souffle de vie et aux appels des vivants.
Thank you.
et sœurs, que votre cœur se repose dans l'immense amour du Père, que sa face lumineuse éclaire le dedans et le dehors de votre vie, que les saisons, les années et les heures ne puissent s'écouler sans que s'élargisse votre reconnaissance, et que votre âme ait toujours de Dieu la soif et l'humble garde de tendresse. Amen.